Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La vaccination contre le Covid-19 débutera ce dimanche dans l'Union européenne, simultanément dans les 27 pays, dit la Commission. Nous essaierons de comprendre comment se préparent par exemple la France et l'Allemagne.
Témoignage ensuite d'un chauffeur routier français coincé à Newcastle. Le ministre des Transports promet une solution dans les heures qui viennent.
Pôle emploi va pouvoir vérifier les comptes en banque, les fournisseurs d'énergie ou de téléphonie de ses allocataires. L'idée est de renforcer la lutte contre la fraude. Vous entendrez dans cette édition.
Et puis la Corrèze cherche à recruter pour se repeupler, une stratégie pensée en ces temps de crise sanitaire. Explication dans ce journal.
Nous irons enfin au Maroc avant le premier vol prévu cet après-midi entre Tel Aviv et Rabat, entre Israël et le Maroc. De nombreux Marocains ne voient pas ce rapprochement d'un très bon œil, vous le comprendrez. Le vaccin BioNTech Pfizer va donc pouvoir être administré en Europe. Hier, deux instances ont donné leur accord à la mise sur le marché de ce vaccin, l'Agence européenne du médicament, et puis quelques heures plus tard, la Commission européenne, plus tôt que prévu. Sa présidente, Ursula von der Leyen, s'en est expliquée publiquement.
Sur la base de l'évaluation scientifique de l'Agence européenne du médicament, nous avons autorisé le vaccin BioNTech Pfizer sur le marché européen. Les premiers lots seront expédiés depuis l'usine Pfizer, basée en Belgique, dans les prochains jours. Depuis le début de cette épidémie, j'ai toujours dit, nous sommes ensemble. Alors la vaccination doit commencer au même moment, dans tous les pays, pendant la campagne européenne des 27, 28 et 29 décembre. C'est une excellente façon de finir cette année difficile et de tourner la page du Covid-19.
Une campagne de vaccination dès le 27 décembre, donc c'est-à-dire ce dimanche. Pour beaucoup de pays, ce sont les personnes en maison de retraite qui seront les premières vaccinées en respectant, et c'est important, leur consentement. Ce sera le cas par exemple en Allemagne, où tout est prêt, à commencer par les installations à Berlin, Ludovic Piétenu.
Deux anciens aéroports berlinois transformés en centres de vaccination, un vélodrome ou une salle de concert, la capitale allemande vient tout juste de terminer la construction express de 6 espaces géants pouvant accueillir au total jusqu'à 20 000 personnes par jour, y compris le week-end. L'Allemagne en a construit 442 sur son territoire. Chaque région en a la pleine responsabilité, de la construction à la gestion. Ce dispositif est complété par des équipes mobiles pour aller dans les endroits les plus reculés ou dans les maisons de retraite. Le pays, assurait hier un porte-parole du gouvernement, a provisionné 136 millions de doses du vaccin pour partie déjà reçues ces toutes dernières heures. La suite viendra au fur et à mesure de la production. Soit avec deux injections nécessaires, la possibilité de vacciner autour de 60 millions de personnes, un nombre suffisant, dit-il, pour atteindre le taux d'immunité dans la population. Et comme pour constater que tout était fin prêt, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a visité hier l'un des centres de vaccination de Berlin. Vous suivez un circuit, tout est fléché depuis la vérification de votre identité jusqu'à la vaccination, cela doit prendre une heure. L'injection est précédée d'une consultation médicale et au bout du parcours, une salle d'attente et de repos pour vérifier que tout s'est bien passé.
Ludovic Piétenu depuis Berlin pour France Culture. Et en France, qu'est-il prévu pour les jours qui viennent? Ce sont les préfets qui vont devoir assurer la sécurité des lieux de stockage du vaccin. Pour y entreposer les doses, les itinéraires des véhicules venus de Belgique seront tenus secrets face au risque de vol, de malveillance. Les forces de sécurité intérieure seront mobilisées. Sachez que ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit se rendre dans un entrepôt logistique en région parisienne. Un entrepôt justement mobilisé pour l'acheminement du vaccin. Je précise que nous étions d'ailleurs la semaine dernière dans les coulisses du transport du vaccin. C'est un reportage de la rédaction d'Hakim Kasmi que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. La logistique, le transport de marchandises, voilà un secteur quasiment à l'arrêt en ce moment dans le nord de la France et en Grande-Bretagne, de l'autre côté de la Manche. La faute à une variante du Covid-19, une nouvelle souche particulièrement active dans le sud-est du Royaume-Uni, est jugée hier soir par le président français comme problématique. Toutes les arrivées depuis le sol britannique sont donc interdites pour encore 24 heures, c'est le cas en France. Le temps, disent les autorités, de trouver une solution pour les ressortissants qui sont coincés au Royaume-Uni. C'est le cas par exemple de Jean-François Coupigny, chauffeur de poids lourds. Il devait rentrer à Calais aujourd'hui, mais il patiente, dit-il à Jérôme Jadot, dans son camion, dans une zone industrielle près de Newcastle.
Je ne peux pas rentrer chez moi avec mes enfants, mes petits-enfants, pour les fêtes de Noël. Déjà qu'on n'a pas de vie sociale, on n'a pas de vie de famille, si en plus de ça, on me prend mon Noël. Je peux dire clairement que depuis 25 ans, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Pour trouver un endroit où on peut se faire tester, c'est déjà compliqué. C'est un 44 tonnes, ça fait 16 mètres de long. On va aller se garer en centre-ville, dans Londres et tout ça, pour trouver un laboratoire. J'estime que mon gouvernement doit me faire rentrer chez moi, quitte à me faire passer à Calais par une zone de test où je serai testé. Je suis en colère.
La réponse du gouvernement ne devrait pas tarder. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a en effet déclaré hier soir qu'un protocole sanitaire serait mis en place au niveau européen dans les prochaines heures. Il permettra de reprendre le trafic entre la Grande-Bretagne et le continent européen. Pour évoquer un peu plus le Royaume-Uni et sa gestion de la crise sanitaire, Frédéric Saïs recevra notre correspondant à Londres, Richard Place. Ce sera dans son billet politique après cette édition.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. De nouveaux droits viennent d'être accordés à Pôle emploi pour combattre la fraude.
Oui, l'opérateur public pourra désormais vérifier les comptes en banque, les fournisseurs d'énergie ou de téléphonie des allocataires. Cette mesure s'inscrit dans le projet de loi de finances 2021 qui a été adopté la semaine dernière et elle pose question, Catherine Pétillon.
Un champ de contrôle étendu, voilà ce que permettent deux dispositions de la nouvelle loi de finances. La première donne à Pôle emploi le droit de communication. C'est ce qui autorise la transmission d'informations émanant d'entreprises comme les établissements de crédit, les fournisseurs d'énergie ou encore les opérateurs de téléphonie, et cela sans que s'y oppose le secret professionnel, notamment bancaire. C'est un pouvoir dont bénéficient déjà depuis plusieurs années les URSSAF et d'autres organismes de sécurité sociale. L'objectif, permettre à Pôle emploi de vérifier l'exactitude des informations que fournit un chômeur pour se voir verser des allocations. En pratique, seuls les 140 agents assermentés de Pôle emploi pourront faire ces demandes et seulement dans le cas des suspicions de fraude et non pas dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi, par exemple. L'an dernier, sur les 2,7 millions de personnes indemnisées, 18 000 demandeurs d'emploi ont été incriminés de fraude. Deuxième nouveauté, la possibilité pour Pôle emploi d'accéder dans les mêmes conditions au fichier de contrat d'assurance vie, le FICOVI. Ces mesures suivent une recommandation faite par la Cour des comptes depuis plusieurs années. Cela ne modifie pas fondamentalement l'approche de Pôle emploi en matière de lutte contre la fraude, mais ce vote signe peut-être un changement d'ambiance. Il y a 5 ans, François Rebsamen, ministre du Travail du gouvernement Valls, avait déjà envisagé ces modifications, mais devant les remous, il avait renoncé avant même la discussion parlementaire. Il craignait que cela ne soit interprété comme une volonté de stigmatisation des chômeurs. Cette fois, ces deux amendements au projet de loi de finances n'ont quasiment pas suscité de débat au Parlement. Ils s'inscrivent en outre dans un texte qui n'instaure aucune nouvelle mesure contre la fraude fiscale ou les détournements par les employeurs des aides de l'activité partielle.
Catherine Pétillon. Penchons-nous à présent sur une recherche non pas d'emploi mais de travailleurs. La Corrèze tente d'attirer les urbains. Elle mise pour cela sur les confinements successifs et sur le désir affiché par certains de changer de cadre de vie. Le département de la Corrèze, pour se repeupler, vise les populations de Toulouse, Bordeaux ou Clermont-Ferrand. Le conseil départemental lance pour cela une sorte de cellule d'assistance entièrement dédiée à l'accueil et à l'accompagnement de nouvelles familles. Cécilia Arbonin.
À première vue, la campagne de communication de la Corrèze ressemble à une tombola géante de Noël. Un jeu de hasard où le gagnant décroche un week-end tout frais payé pour avoir le plus bel aperçu possible de la vie ici. Mais derrière l'anecdote, il y a en fait une organisation logistique pour attirer et faciliter les démarches des nouveaux venus. Le président du conseil départemental, Pascal Coste.
Ça a été un choix d'attendre justement la deuxième vague du Covid pour faire cette campagne de communication. Alors aujourd'hui, en Corrèze, on cherche plutôt les métiers autour des infirmiers, des aides-soignants, des assistantes maternelles. On a besoin de techniciens de maintenance, de négociateurs immobiliers. C'est aujourd'hui plus de 500 personnes qui ont répondu. Tout le monde est rappelé dans les 10 jours. Donc c'est un accompagnement qui peut aller aussi bien dans le cadre de l'emploi, du logement, la scolarisation, les modes de garde des enfants. Et on a mobilisé ici en Corrèze l'ensemble des acteurs, les communautés de communes, les consulaires, les syndicats ouvriers même. On aura des concierges qui viendront du syndicalisme en fonction un peu des profils des gens.
Vanessa, chargée de communication, va tenter l'aventure de la Corrèze.
C'est une opportunité professionnelle pour mon conjoint. Donc lui, il a trouvé du travail là-bas. Je pense que les gens ont vraiment besoin de nature et de se ressourcer et de tourner une page. En ce qui me concerne, je vendais ma maison en Pays de Loire.
La pandémie, dit-elle, a rebattu les cartes de ma vie, de ce qui me semblait essentiel avant.
Va-t-on vers un exode urbain? Est-ce une façon de déconsommer et ou de se ressourcer? Nous posions la question dès cet été sur France Culture dans le temps du débat. Une émission à réécouter si vous le souhaitez en podcast et sur franceculture.fr. Ce mardi soir, il sera question dans le temps de débat à partir de 18h20 de la stratégie vaccinale qui passe par la communication et une certaine priorisation. À ce propos, nous avons appris cette nuit qu'aux États-Unis, le président élu Joe Biden s'est fait vacciner en direct à la télévision. Âgé de 78 ans, il a reçu le sérum produit par Pfizer et BioNTech. Les États-Unis, dont le Congrès vient d'adopter officiellement par un vote un nouveau plan de soutien pour les familles et les entreprises américaines touchées par la pandémie, plan qui s'élève à près de 900 milliards de dollars. Le conseiller et gendre de Donald Trump doit quitter Israël cet après-midi. Jared Kushner prendra le vol inaugural qui relie Israël au Maroc. C'est une première symbolique pour parachever la normalisation entre les deux pays. Cette reconnaissance portée par les États-Unis réjouit les Marocains, d'autant que leur souveraineté sur le Sahara occidental est aussi reconnue. Mais la reprise des liens avec Israël, elle, n'emporte pas l'adhésion de tous les Marocains. Explication de notre correspondant Sédic Ralfi, qui nous explique d'abord pourquoi le vol affrété aujourd'hui s'appelle LY555.
Le choix de ce numéro de vol est tout un symbole, 5-5-5-5 comme l'Armissa, la main de Fatima ou main de Myriam, symbole de protection et de paix au Maghreb comme en Israël. Jared Kushner et la délégation américano-israélienne seront reçus par le gouvernement islamiste PJD. Pour l'ambiance, Mohamed Amekraz, le ministre de l'Emploi et secrétaire général de la jeunesse PJD, déclarait il y a quelques jours sur une chaîne du Hezbollah que tous les Marocains rejettent cette normalisation.
C'est la position de tous les Marocains, pas seulement du PJD.
Autre voix dissonante, celle du supporter de football, les Green Boys du Raja ont fait retentir des chants pro-palestiniens pendant les derniers matchs de l'équipe casablancaise. De quoi mettre du baume au cœur à Sion, à Sidon, militant historique de la cause palestinienne et des droits de l'homme. Il a été empêché de manifester cette semaine.
L'espace public est aujourd'hui interdit pour l'expression d'une position contraire au point de vue officiel.
Pour lui, Jared Kushner n'est pas le bienvenu.
Jared Kushner, sous influence du rabbin Pinto, représente bien le point de vue des chrétiens sionistes, les évangélistes qui sont derrière Trump. Il vient défendre un projet colonial raciste. Il n'est pas le bienvenu au Maroc.
Après ce vol inaugural, la compagnie El Al prévoit au moins un vol quotidien reliant Israël et le Maroc.
Sédic Ralfi depuis Casablanca pour France Culture. La Maison Blanche reconnaissait la semaine dernière une vaste cyberattaque visant des agences gouvernementales. Le chef de la diplomatie Mike Pompeo a accusé la Russie d'avoir commandité cette attaque, de l'avoir pilotée. Et bien ce matin, on en sait un peu plus. L'attaque aurait frappé des systèmes informatiques utilisés par de hauts responsables du Trésor public aux États-Unis. Revenons en France où, dans l'attente de la décision du Conseil d'État sur l'ouverture possible ou non des lieux culturels, le gouvernement estime que l'accès à la culture est possible en ce moment grâce aux captations diffusées sur Internet. Est-ce une réalité partagée? En tout cas, à Lyon, un théâtre s'est spécialisé depuis cet été dans les spectacles interactifs et improvisés. L'Improvidence, c'est son nom, diffuse des représentations en ligne pour une place vendue moitié prix. Cela fonctionne, si l'on en croit le président et fondateur de ce théâtre, Thomas Debray.
On s'est dit, c'est le moment de faire le pas, d'investir dans un studio de télé de 4 caméras avec un logiciel de montage en direct. On diffuse les spectacles en live interactif. Et les comédiens et les compagnies ont répondu présentes de toute la France, même de Belgique, pour jouer, pour vivre l'expérience de jouer sans public, comme un peu comme une répétition générale, et pas forcément un public d'habitués, parce qu'on est basé à Lyon, mais on n'a que 10% du public qui est de Lyon et 90% qui est de toute la France, voire un petit peu plus loin, parce qu'on a eu la Martinique, on a eu Tahiti, on a eu la Nouvelle-Calédonie. Ça nous a permis d'élargir, de découvrir un nouveau public qui adore, parce qu'avec le premier confinement, ils ont pris l'habitude de faire de la visio avec du chat. Et c'est exactement le même principe qu'on a mis en place, sauf qu'on passe par des plateformes qui permettent de diffuser en haute définition. Dans tous nos spectacles, il y a toujours une forte participation du public. Et ça se fait en direct. Il n'y a pas de replay, il n'y a pas de VOD. Parce que on veut garder la magie du spectacle vivant. Et pour certains spectacles, on a fait jusqu'à 300 personnes, c'est-à-dire qu'on a fait 6 fois la capacité maximale du théâtre. C'est un modèle complémentaire. Dès qu'on aura la réouverture avec la possibilité d'accueillir en physique on aura également la possibilité de diffuser en live le même spectacle et potentiellement de doubler ou de tripler la capacité du théâtre qu'on a actuellement.
Des propos recueillis par Benoît Grossin qui vous prépare un article complet sur les alternatives culturelles en ligne. Article qui sera évidemment sur internet sur franceculture.fr. La météo du jour avec des éclaircies sur le sud de la France ce mardi. Ailleurs, les averses sont toujours d'actualité. Ce matin, il fait 8 degrés à Lyon, 10 degrés à Nice et déjà 13 à Brest et à Paris, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h16 sur France Culture. Dans 30 minutes environ, une surprise, un cadeau de Noël, puisque chaque jour, vous retrouverez Hervé Le Tellier, le prix Goncourt. Il a obtenu le prix Goncourt pour L'Anomanie, publié aux éditions Gallimard. Hervé Le Tellier, donc, vous racontera ses villes imaginaires. Et puis, immédiatement après, nous serons en ligne avec une représentante du monde de la culture, en l'occurrence aujourd'hui Martine Legrand. Elle est directrice de la scène nationale d'Albi et elle vous dira comment elle voit, avec quelle inquiétude elle voit cette période particulière pour le monde de la culture. Et puis enfin, nous retrouverons notre camarade Arnaud Laporte qui nous délivrera la pensée d'un artiste. Dans quelques instants, nous retrouverons Jean Viard, le sociologue, évoquera avec nous ces fêtes de Noël au risque de la pandémie. Et puis un billet politique avec Frédéric Seitz dans quelques secondes.